Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. Un des principaux sujets au cœur des négociations de la COP25 consiste en la mise en place des marchés carbone. Avec cet épisode, j'ai envie que vous puissiez comprendre ce que sont les marchés carbone, leur fonctionnement, leurs limites, mais aussi les alternatives possibles. Pour ce faire, j'ai rencontré des personnes passionnantes et passionnées. Économistes, négociateurs de la COP, chercheurs, ainsi que la société civile mobilisée ici à Madrid. Avant de les entendre, sachez que lors de la précédente édition en Pologne, les États n'étaient pas parvenus à aboutir à un consensus sur ce point qui reste encore aujourd'hui un point de blocage. L'enjeu consiste à définir les règles de fonctionnement et d'application de ces mécanismes d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Mais pour entrer dans le sujet et afin que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, j'ai demandé à Étienne Tabag, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Thiers de Marseille, de m'expliquer les bases des marchés carbone. Étienne, vous le connaissez peut-être déjà car il a créé le podcast Splash produit par Nouvelles Écoutes qu'il co-anime tous les 15 jours avec Laurine Melka, également prof d'éco.
Qu'est-ce qu'un marché de carbone ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un marché où on vend, on achète un bien. Mais au lieu d'acheter un bien matériel simple, classique, par exemple des stylos, des chaises ou des biens immobiliers, on va acheter et vendre des quotas de carbone. Alors, c'est quoi ces quotas de carbone ? Par exemple, vous êtes une entreprise industrielle et jusque-là, vous polluez environ 5 tonnes de CO2 par an. Donc, vous rejetiez 5 tonnes de CO2 par an dans l'air. Eh bien, les pouvoirs publics vont vous attribuer un quota de pollution, c'est-à-dire par exemple, vous ne serez plus autorisé qu'à polluer seulement 4 tonnes de CO2 dans l'air. Et si jamais vous ne respectez pas ce quota, vous continuez à polluer 5 tonnes, donc vous polluez une tonne de plus que ce qui a été attribué initialement par les pouvoirs publics, eh bien vous devez acheter cette autorisation, ce quota en plus, sur ce fameux marché de carbone. Et donc ça, vous allez payer cher ce quota en plus. Mais alors qui sont les vendeurs de ces quotas sur ce marché ? Eh bien ce sont les entreprises qui, elles, ont été dans la capacité de respecter le quota initialement attribué par les pouvoirs publics. Je reprends mon exemple, vous polluez 5 tonnes jusque-là de CO2, vous avez un quota, mais en faisant des investissements pour renouveler votre capital productif, pour le rendre beaucoup plus vertueux, moins polluant, vous réussissez à polluer seulement 3 tonnes, donc une tonne de moins que les quotas attribués. Ça vous fait un surplus de quota, et ce surplus de quota, vous avez le droit de le vendre sur le marché de carbone. Donc, vous êtes récompensé pour votre comportement vertueux. Comme vous polluez beaucoup moins, eh bien en vendant les surplus de quotas, vous gagnez de l'argent. Donc le marché, d'une manière générale, récompense les entreprises vertueuses qui polluent moins, car elles peuvent vendre leur surplus de quotas. Mais ce marché va sanctionner, ou ce système va sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs quotas, qui sont obligées d'acheter des quotas en plus, et ce sont elles les plus polluantes, les plus pollueuses, et qui donc vont payer la pollution qu'elles entraînent, qu'elles engendrent pour la pollution de l'air ou pollution de l'environnement.
Ok, c'est clair. Mais est-ce un bon système ? Est-ce qu'il fonctionne ?
Alors pourquoi on pense que c'est un bon système, nous les économistes ? Parce qu'on estime que le prix des quotas va réguler les comportements de toutes les entreprises. C'est-à-dire que si les prix sont élevés sur le marché de carbone, toutes les entreprises vont se dire « Ah, j'ai intérêt à respecter les quotas, sinon ça va me coûter cher d'acheter des quotas en plus. Et si en plus je respecte bien mes quotas, je vais pouvoir avoir des surplus de quotas que je vais pouvoir vendre à un prix élevé. Donc ça va me rapporter beaucoup. » Donc ça ne fonctionne que si le prix est élevé. Et pourtant, on observe sur de nombreux marchés de carbone, notamment le marché de carbone européen, que le prix de la tonne de CO2 est assez faible. Alors pourquoi ? Parce que l'attribution initiale de quotas a été trop importante pour toutes les entreprises concernées. Pour le faire simple, vous polluez 4 tonnes, on vous donne un quota assez facile à respecter de 4,8 tonnes, etc. Et donc, vu que c'est facile de respecter, toutes les entreprises ou quasiment toutes les entreprises arrivent à respecter le quota. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vendent ces quotas sur le marché de carbone. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à en acheter parce qu'elles arrivent à respecter leur quota. Donc, les prix s'effondrent. Donc tout dépend, et c'est très important, tout dépend de l'attribution initiale de quotas à toutes les entreprises concernées. Il est très important d'attribuer assez peu de quotas pour véritablement obliger les entreprises à respecter ces quotas. Sinon, elles paient cher si elles achètent, si elles sont obligées d'acheter des quotas en plus. Et si elles respectent leurs quotas, elles peuvent vraiment gagner de l'argent. Ce qui est très important, c'est cette attribution initiale de quotas. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les lobbies font pression, en tout cas les lobbies font énormément pression pour avoir beaucoup de quotas au début et faire en sorte que les prix restent bas. Donc ce marché ne fonctionne véritablement ou n'a d'effet véritablement sur les comportements des entreprises que si les pouvoirs publics sont très vigilants à leur comportement d'attribution initiale des quotas et de contrôle et de vérification que les pollutions des entreprises correspondent bien à leurs quotas et si c'est moins ou plus qu'elles ont effectivement le droit d'acheter ou de vendre ces quotas. Donc le rôle des pouvoirs publics, contrairement à ce que peuvent croire des libéraux, est fondamental dans le bon fonctionnement de ces marchés de carbone.
Pour remettre tout ça dans le cadre de la COP, il faut savoir que c'est le protocole de Kyoto, au siècle dernier, en 1997, qui avait mis en place ce système d'échange de quotas avec des objectifs de réduction annuelle des émissions. Aujourd'hui, le contexte a changé, nous sommes passés à l'ère de l'accord de Paris, né en 2015 lors de la COP21 en France. En 2017, en Europe, le prix de la tonne était d'environ 4 euros. À l'été 2019, il est passé à 25 euros. Néanmoins, des études indiquent que le dispositif sera efficace, c'est-à-dire qu'il conduira à de réelles réductions des émissions de gaz à effet de serre s'il dépasse les 80 euros la tonne d'équivalent CO2. À titre indicatif, à l'échelle planétaire, 75% des prix du carbone ne dépassent pas les 10 dollars. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, avec l'urgence climatique de plus en plus aiguë, peut-on compter sur les marchés carbone pour apporter des solutions ? Et ce fameux article 6 de l'accord de Paris, n'est-ce pas juste de la mécanique technocratique ? J'ai posé ces questions à Stéphane Poufari, fondateur de l'ONG Énergie 2050. Son organisation est entre autres chargée de la rédaction du guide des négociations pour les acteurs francophones.
Oui, le marché carbone a du sens. Pourquoi ? Parce que de toute la manière, le principe de base de tous ces mécanismes qui existaient dans les mécanismes de flexibilité à l'époque et qui existent toujours un peu en Europe, qui ont donné d'ailleurs des belles choses, hein, ont un sens, c'est de donner une valeur à une certaine vertu environnementale dans un contexte donné. Aujourd'hui, il est moribond parce qu'il n'y a plus d'accord carbone international. Le protocole de Kyoto a été arrêté. Le protocole de Kyoto 2, basé sur une base volontaire, s'est terminé. L'article 6 aujourd'hui, par contre, pose plein de questions. Et là aussi, les gens pensent qu'il est technique, mais il est politique. Aujourd'hui, il y a des courants de pensée dans ces articles, assez fragmentés. Par exemple, certains voudraient des accords bilatéraux qui puissent se faire sans contrôle de tiers audit, principe onusien qui se faisait. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué, parce que n'oublions pas que dans le cadre de la convention ici, de l'accord de Paris, on doit éviter le double contrage, la transparence, les registres qui doivent tracer ce que l'on reçoit, ce que l'on met en œuvre, les impacts avec les mesures adaptation-atténuation. Donc ça, c'est des courants forts. Le groupe Afrique, par exemple, refuse. D'autres groupes, comme malheureusement l'Europe, et on espère qu'elle va changer d'avis, voudraient plutôt un mécanisme parallèle, bilatéral. On comprend l'intérêt de l'Europe parce que elle est très engagée sur ces sujets et elle veut pas attendre, elle veut être un pionnier, premier de cordée. Très intéressant, mais attention. D'autres pensent aussi que ces mécanismes-là, comment va la valoriser ? Il y a des questions méthodologiques par rapport à la transparence, mais qui touchent aussi aux industries. Comment va faire les RATI en français, l'acronyme ? Donc, comment va faire pour éviter le double contrage ? Donc, il y a plein de questions techniques, mais qui, on le voit bien, tel que je l'explique, qui sont politiques. Et une fois qu'on va être politiquement d'accord sur les trois courants ou les quatre courants qu'il y a en cours, le 6-2, 6-4, 6-8 ou autre, ça va se décliner assez facilement. Donc nous, on a beaucoup de collègues qui travaillent dans les groupes, même dans le groupe de négociation Afrique sur ces sujets-là. C'est un sujet très politique, contrairement aux apparences.
Les enjeux sont donc politiques, parce que les objectifs sont tels qu'il faut absolument réguler le jeu de ces marchés. Mais si on prend le problème autrement, ce marché, c'est aussi s'autoriser à continuer à polluer, non ? On s'arrange, offre d'un côté, demande de l'autre, mais on émet toujours des gaz à effet de serre. Et le GIEC est clair, la solution, c'est de garder les énergies fossiles à l'état fossile, dans le sol. Et puis, ces marchés ne prennent pas en compte les impacts sur les populations et les terres des activités d'extraction et de combustion de ces énergies fossiles. J'en ai eu un exemple flagrant en discutant avec Rizka Dharmawanti. Elle travaille pour l'ONG Ekoton en Indonésie et elle se bat depuis plusieurs années aux côtés des populations de Lakardowu.
Cette industrie a envoyé ses cendres de charbon à une autre entreprise pour gérer ses déchets. Mais ils ont déversé illégalement une grande quantité de ces cendres de charbon dans les territoires de communautés. Cela a affecté la vie quotidienne des gens. Par exemple, leur terre a été contaminée. Il y a d'ailleurs un rapport qui montre qu'ils ne peuvent consommer leur récolte. Ils ont perdu leur accès à une eau propre parce qu'ils l'ont contaminée avec les cendres de charbon. Donc les gens ont eu des irritations de la peau. Les enfants, les femmes, même les personnes âgées.
Ce « il » qu'évoque Riska, c'est PT Priya, une entreprise de gestion de déchets B3 qu'elle transporte, transforme et détruit. Et B3, ça ne paraît pas comme ça, on pourrait presque confondre avec le nom d'une vitamine. Ce sont des déchets contaminés, toxiques ou médicaux. Et sachez que certaines cendres de charbon, dont parle Riska, peuvent contenir des quantités importantes de métaux lourds. Des pollutions de ce type ont d'ailleurs été révélées aux USA et en de nombreux lieux du monde. Riska m'a aussi montré des photos des irritations dont elle parle. C'était dur à regarder, vraiment. Mais vous vous demandez quelles ont été les réactions de l'entreprise, du gouvernement indonésien. Riska a la réponse.
L'entreprise nie les déclarations des gens alors qu'ils disposent d'enregistrements, de photos. Il y a aussi une étude indépendante réalisée par un chercheur italien indépendant qui dit que le secteur a été contaminé. Mais il continue à nier tout cela. Le gouvernement a tardé à répondre aux plaintes de la communauté. Après une longue bataille d'environ 2 ans, ils ont commencé à reconnaître qu'il y avait un problème. Mais ce qu'ils font, c'est d'essayer de minimiser les conséquences et ils tentent aussi de minimiser l'impact social de l'entreprise sur la communauté. Ils essaient juste de faire du nettoyage. Ils utilisent ce mot, nettoyage. Ils parlent de nettoyage, mais ils ne nettoient pas.
L'exemple évoqué par Riska est à la fois unique et banal. Les populations de Lacardo, mais d'autres en Colombie, au Niger, etc., paient le prix fort, celui des impacts négatifs, directs ou indirects, générés par les industries fossiles. Alors comment fait-on ? Parce que je ne suis pas si naïve, notre monde tourne grâce aux énergies. L'économie mondiale est énergie. C'est d'ailleurs ce que dénoncent des mouvements tels que l'Alliance pour la justice climatique. Le marché du carbone n'est qu'un exemple parmi d'autres de la conversion en valeur financière du vivant. Une forêt, un champ, l'air, une graine, le CO2, etc. Alors la transition. L'équation semble inextricable. J'ai discuté avec Mathilde Tessier, elle est doctorante sur la transition énergétique. Elle est aussi conseillère fédérale d'Europe Écologie Les Verts, où elle est également co-responsable de la commission énergie. Pour elle, le marché carbone institue un droit à polluer.
Je travaille surtout sur la transition énergétique mondiale. Et donc, je suis nulle des scénarios où on arriverait effectivement à avoir 1,5 degré Celsius. Mais ce qu'on montre, c'est que si on n'agit pas tout de suite en ayant des vraies politiques volontaristes sur le sujet, on n'y arrivera pas, en fait. Et c'est, donc moi, je travaille sur la question de l'acceptation sociale de la transition énergétique. Et en fait, c'est pas juste l'acceptation des citoyens, c'est vraiment l'acceptation à la fois des industriels et des politiques qui n'ont pas spécialement envie que ça se passe et que ça bouge vraiment, quoi. Si j'étais cynique, je dirais que les gouvernements ont pas tellement intérêt à sortir des systèmes capitalistes qui se basent sur le marché. En fait, tout ce qui est hors marché, c'est plutôt des systèmes de coopération, de compétences.
Il y a les marchés carbone d'un côté, avec le désormais fameux article 6 de l'accord de Paris. Mais l'article comporte aussi un paragraphe 8 qui intéresse particulièrement les ONG et qui commence ainsi. Les parties reconnaissent l'importance de disposer de démarches non fondées sur le marché. Et qui se poursuit de la sorte, dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, d'une manière coordonnée et efficace, notamment par l'atténuation, l'adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.
Il me semble que dans cet article 6.8, on parle aussi de l'éradication de la pauvreté. Oui. Et je pense que c'est un élément extrêmement important, en fait. C'est un gros enjeu qui a été un point de blocage des négociations depuis longtemps. C'est que les pays en voie de développement veulent se développer avant de résoudre la question de la transition écologique. Et ils disent aussi, il y a un moment où les riches se sont développés, ils se sont liés, et c'est injuste, en fait. Et je pense que c'est extrêmement important de voir comment on peut travailler sur ces questions de coopération internationale et de finalement pouvoir partager les solutions. Mais je pense que les grands acteurs industriels ont absolument aucun intérêt à ça.
L'article 6.8, c'est le point focal que les ONG mettent ici en avant à Madrid. Sriram Madhusodanan, de Corporate Accountability, le souligne. Pour lui, le marché carbone, c'est l'outil des lobbies.
De nombreuses preuves nous montrent que les marchés carbone sont inefficaces pour garder les combustibles fossiles dans le sol et réduire les émissions. Pire, ils sont adroits à la fraude, à la violation des droits humains et inéquitables quant à la justice climatique. Plutôt que de donner le feu vert aux vœux de l'industrie fossile, les gouvernements doivent écouter les mouvements des peuples partout dans le monde et proposer de réelles solutions. Il y a une véritable opportunité de jeter les bases de vraies transformations pour une trajectoire à 1,5 degré avec un autre volet de l'article 6, à savoir l'article 6.8. Dans le cadre de l'article 6.8, ils devraient se mettre d'accord pour développer un programme de travail facilitant les actions climatiques, la trajectoire à 1,5 degré et le vrai zéro émission aussi tôt que possible. Le monde en a besoin, les peuples le demandent.
Parmi les vraies solutions portées par la Coalition pour la justice climatique, on trouve la fin des subventions aux énergies fossiles, le fait de sécuriser les droits des peuples indigènes et des communautés locales, passer de l'industrie agricole à l'agroécologie, accélérer la restauration écologique des milieux, investir drastiquement dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Ok, les solutions existent pour faire une transition hors des logiques de marché, même si ces derniers peuvent, s'ils sont fortement régulés, contribuer à une baisse des émissions. Mais comme tout est politique, tout le monde le dit, quels exemples montrent la voie et à l'échelle adéquate ? Sivan Karta est scientifique à l'Institut de l'environnement de Stockholm. Il y co-dirige le programme Genre et équité sociale et il travaille en particulier sur la conception de cadres internationaux pour le climat. Il m'a confié que selon lui, le Green New Deal des démocrates américains est à suivre de près.
Je pense vraiment que c'est intéressant, et je pense que c'est intéressant sur plusieurs aspects. Je pense qu'en France, plus qu'ailleurs, les gens comprennent que l'action climatique peut être abordée d'une bonne façon ou d'une mauvaise. Tout le mouvement des Gilets jaunes était une réponse à une façon particulièrement pauvre d'appréhender l'action climatique, où le fardeau est placé sur ceux qui n'étaient pas nécessairement les plus à même de se le permettre. Le Green New Deal, je pense, a réellement tenté de fondamentalement choisir une autre approche. Il tente de reconnaître qu'une transition majeure, celle dont nous avons besoin, causera des perturbations si ce n'est pas fait d'une façon prudente qui prend en compte les principes de justice. Le Green New Deal s'intéresse aux préoccupations des travailleurs. Il s'intéresse aux préoccupations des gens qui travaillent. Il s'intéresse aussi aux préoccupations des communautés indigènes. Il s'intéresse aux préoccupations des agriculteurs. Et il essaie de mettre en place une vision qui apporte un futur positif pour toutes ces communautés. Il reconnaît aussi qu'il y aura des coûts, mais que ces coûts devraient être portés équitablement. Principalement des coûts supportés par les très riches, les entreprises et en particulier par les industriels des énergies fossiles. Donc je pense que ça bouge les lignes, je pense que ces différences sont fondamentales dans la façon de faire vis-à-vis de nombreuses autres approches utilisées pour définir une politique climatique.
Le Green New Deal propose une approche intégrée visant à décarboner l'économie américaine en 10 ans. Il s'attaque autant aux questions de santé, de transport, d'agriculture, d'habitat que d'éducation. Et ce que souligne Sivan, c'est l'ambition d'une transition juste. Reste à voir ce que le Green New Deal va devenir dans les mois à venir. Les campagnes électorales font souvent du mal aux grandes visions de transformation de la société. Il y a la version avant et celle d'après. Il est aussi critiqué car il fait référence à un objectif de zéro émission nette. Et cet adjectif « net » renvoie à une logique d'addition et de soustraction, ce qui ne serait pas si loin d'une logique d'offre et de demande, donc d'un marché, certes peut-être mieux négocié ou régulé. Mais je ne suis pas devin, alors rendez-vous dans un an, donc après les élections présidentielles américaines. Et maintenant, vous y voyez plus clair sur les marchés carbone et leurs alternatives ? J'espère que oui, il vous reste à construire votre propre opinion. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup à la rencontre de ces interlocuteurs et interlocutrices. Et je vous l'avoue, j'ai un penchant pour le monde version 6.8. Oui, je ne suis pas journaliste, je tente de bien faire, mais tout ce podcast, depuis le début, reste très situé, depuis mon corps, mon parcours, mon âme et ma tignasse un peu rebelle sur les bords. Bref, Merci à Étienne, Stéphane, Riska, Mathilde et Sivan pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci dans l'ordre d'apparition à ma maman, à Benjamin Rouchaville et à Antoine Gouritin pour les doublages. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur mon répondeur et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cet épisode et à recommander le podcast autour de vous. Il paraît même qu'ici ou là, vous pouvez lui offrir des étoiles. Demain, c'est une conversation que je vous propose. On parlera de la COP, bien sûr, histoire de ne pas vous étonner. On parlera des négociations, de ce qu'il faut en attendre ou pas. Je n'en dis pas plus, un peu de suspense ne fait jamais de mal. En tout cas, d'ici là, soyons toujours curieux.